Bon, on va terminer aujourd'hui ce cycle de conférences organisées en collaboration entre l'Extension et CITEC au carré. Ce cycle donc sur l'histoire de la médecine, mais sans doute pas l'année prochaine, mais l'année suivante, on a bien envie de reprendre ce thème-là avec d'autres exposés et conférences. Donc, il y aura très certainement une suite. Et aujourd'hui, on va avoir abordé un point de vue un peu plus philosophique avec Gaël Jean-Marc, qui va nous parler de la question du pouvoir médical. Alors, Gaëlle Jean-Marc est docteur en philosophie. Elle est initiatrice et c'est elle coordinatrice de Philocité à Liège. Et elle vient d'une famille de médecins, ce qui explique peut-être en partie aussi son intérêt pour cette discipline. Mais de toute façon, la philosophie aime bien réfléchir sur d'autres questions que sa propre histoire. Et donc, c'est en ce sens qu'elle a accepté de venir réfléchir sur cette question avec nous. Voilà, je lui cède tout de suite la parole.
Merci, bonsoir. Avant de commencer, je dois vous dire qu'il y a une sorte d'arnaque intellectuelle dans le titre. Pouvoir médical, en réalité, si j'avais voulu vraiment vous dire ce que je comptais faire dès le départ, hein, c'est pas un changement d'orientation, c'est prévu, j'aurais dû dire biopouvoir. Mais si j'avais dit biopouvoir, je serais seule dans cette salle aujourd'hui. Donc j'ai préféré le petit détour, le petit subterfuge qui consistait à dire pouvoir médical, voilà, pour que vous ne soyez pas complètement horrifiés à l'approche conceptuelle. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est essayer de voir ce que c'est que ce concept de biopouvoir. Mais avant d'y arriver, je vais vous dire un petit mot sur ce qu'est un concept, en quel sens j'envisage un concept philosophique, et puis d'où il vient, ce concept. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un concept Alors, j'ai pas une définition très autorisée du concept. C'est ce que je vous dis, c'est plutôt mon usage du concept. Disons, c'est que pour moi, le concept, c'est un outil. Donc, ce qui compte dans le concept, c'est la fonction qu'il a. Alors, quelle est la fonction d'un concept? À quoi sert un concept philosophique? Pour moi, un concept philosophique, il sert à orienter le regard, à cerner dans la masse complexe du réel une petite portion, et si possible, pas simplement orienter le regard, mais le déplacer. C'est-à-dire essayer de voir une chose qu'on ne voit habituellement pas dans la façon classique de présenter, de regarder les choses. Donc, disons qu'un concept, c'est lié à la volonté de rendre problématique quelque chose qui ne l'est pas. Et c'est bien une chose que les philosophes ont l'habitude de faire et qui fait qu'on les présente volontiers comme des coupeurs de cheveux en quatre, c'est qu'ils ont l'habitude d'aller créer, disons, des problèmes là où initialement personne n'en voit. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, c'est créer un problème là où il n'y en a pas. Alors je vais devoir prendre des précautions parce que c'est évidemment assez enquiquinant, hein. Personne n'aime les problèmes et personne n'aime les philosophes, peut-être, je ne sais pas. Donc, je sais pas, vous aimez les philosophes, vous, ou bien... Il y a quand même un constat qui est assez évident et assez affligeant, c'est qu'il n'y a pas de famille de philosophes. Mon propre fils, il se dit « Ah, encore une question philosophique !» Alors qu'il y a des familles de musiciens. Donc il y a quand même quelque chose de compliqué dans la transmission de la philosophie qui est finalement la tâche qui me tient véritablement à cœur et qui est la raison pour laquelle je suis à l'initiative de Philocité. C'est comment donner le goût de la philo, mais sachant que la philo est liée à la construction de problèmes. Bon, voilà. Aimer les problèmes. Vous êtes prêts à ça? Ouais. Ouais. Ça veut dire, ah, on a un beau gros problème, là. Chouette. Et on n'a pas de solution, on a juste le problème. Donc, en gros, je vais essayer de créer un problème à l'aide d'un auteur, qui sera Michel Foucault, et je ne proposerai aucune solution. Donc, voilà, vous sortirez d'ici assez déprimé, finalement. On aura articulé une... Voilà, on aura rendu problématique quelque chose qui ne l'est pas initialement, et en plus, voilà, on se dira, bah, au revoir, quoi, c'est bon. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui veulent sortir. Non, bon. Oui, si on veut, ouais. Une aporie, un problème, quoi, un beau problème. Alors, c'est un concept biopouvoir de Michel Foucault. Je vais quand même vous l'écrire. Foucault, ça s'écrit comme ça. Michel Foucault, alors c'est un philosophe français, un des plus célèbres du XXe siècle. Donc, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'il y a une immense faille dans votre culture philosophique. C'est un des philosophes français les plus célèbres, avec Sartre, Camus, Deleuze. On connaît bien Sartre et Camus, peut-être que Deleuze et Foucault, on ne connaît pas encore ou pas aussi bien. Mais en tout cas, voilà, une occasion d'aller un peu farfouiller dans l'œuvre de Foucault. Alors, si je devais dire un mot sur cette œuvre, c'est qu'est-ce que Foucault a voulu faire principalement ? C'est critiquer les normes sociales et les mécanismes de pouvoir qui s'exercent au travers d'institutions qui, en apparence, sont bienveillantes. Elles sont neutres ou bienveillantes, ou disons qu'elles ont une sorte d'utilité sociale assez évidente. Donc il s'est intéressé, il a rendu problématique, disons, les rapports de pouvoir qui existent dans ces institutions que sont la justice, la médecine, l'école, les rapports familiaux, les rapports sexuels, voilà comment on rend tout ça beaucoup plus problématique que ça ne l'est initialement, c'est-à-dire comment on a une approche critique de ce qui paraît utile socialement, de ce qui paraît bienveillant, de ce qui paraît normal. Alors, disons, vous voyez tout de suite arriver dans l'œuvre de Foucault la centralité de la notion de pouvoir. Alors c'est vraiment ça, hein, le centre de son œuvre, s'il fallait le définir, le circonscrire, c'est rendre plus problématique la notion de pouvoir, c'est la conceptualiser, et comme je vous disais, conceptualiser, ça voudrait dire apprendre à regarder autre chose, apprendre à regarder autrement. Alors allons-y un tout petit peu sur la notion de pouvoir telle que Foucault veut la problématiser ou la conceptualiser. Alors on va faire un petit jeu de ne regardez pas, non pas le renard qui passe, mais ne regardez pas le concept un peu traditionnel de pouvoir, mais regardez plutôt. Alors le concept traditionnel qu'il faut oublier, disons, il faut se rendre compte qu'on va se décoller de ce concept-là, c'est une représentation assez traditionnelle du pouvoir que Foucault appelle souverainiste et juridique. C'est-à-dire que le pouvoir prend la forme traditionnelle de la loi. La loi fonctionne selon deux mécanismes de prohibition. Elle interdit. Elle prend la forme typique du « tu ne tueras point », donc il est interdit de tuer, ou bien la forme de l'obligation. Donc, voilà. Tu devras. Donc tu ne dois pas ou tu dois. Voilà la forme classique du pouvoir qui est la forme juridique du pouvoir. Alors naturellement, quand on part de ce pouvoir lié à la loi, on se demande, mais tiens, qui est l'emmerdeur qui m'empêche de ou qui m'oblige de ? Donc vous tournez tout naturellement votre regard vers qui sont les institutions qui détiennent ce pouvoir ? Et vous regardez tout naturellement vers les dirigeants, les gouvernants, ou bien jadis vers les princes et les rois, donc qui paraissent incarner à l'évidence le pouvoir. Là, on est toujours dans la représentation très classique, traditionnelle du pouvoir, et d'un pouvoir qui, du coup, s'impose aussi de haut en bas. Vous avez le prince ou les gouvernants qui sont considérés comme à la tête, hein, la tête c'est au-dessus du corps, et qui imposent leurs lois, voilà, de façon de haut en bas, comme ça. Alors, encore une des autres caractéristiques du pouvoir classique, c'est qu'il s'exerce de façon discontinue, par à-coup, et d'une façon éclatante. Discontinue, ça va un peu avec éclatant, c'est-à-dire qu'il y a des actes de pouvoir qui sont particulièrement manifestes. Alors, ces actes de pouvoir, ça pourrait être couper la tête, voilà, le pouvoir de vie ou de mort, voilà par excellence une sorte d'incarnation du pouvoir souverain. Mais ça pourrait être aussi prélever l'impôt, et peut-être que pour vous, à un moment donné dans l'année, vous sentez à quel point c'est un acte éclatant. Au moment de remplir votre déclaration d'impôt, vous sentez voilà, l'exercice de ce type de pouvoir qui est vous n'avez pas envie, mais vous devez, et ça va faire mal. Donc en fait, le pouvoir, dans sa conception classique, il est conçu comme contraignant et comme prélevant. Alors il prélève soit la vie, ce pouvoir de vie ou de mort, soit l'argent, et ce pouvoir est justifié par une sorte de retour, c'est « je vous prélève l'impôt » ou « je vous oblige à aller à la guerre » et en contrepartie, je vous assure la sécurité, la protection, etc. C'est ce qu'on appelle, disons, les sources du contrat social. Alors ça, c'est la représentation classique du pouvoir, celle avec laquelle Foucault va rompre. Ça va, vous arrivez à suivre? Parce que je vois que à chaque fois, tout le monde regarde vers là. Donc, ne regardez pas cette conception souverainiste classique du pouvoir, mais regardez plutôt. Alors, regardez plutôt la conception que Foucault vous propose de voir. C'est une conception qu'il qualifie de technologique et de positive. Alors, positif, par opposition à cette forme du pouvoir qui interdit, c'est-à-dire qu'on va analyser les mécanismes positif du pouvoir, mais aussi positif au sens concret, au sens de science positive. Allons voir non pas la représentation du pouvoir, l'image qu'on a du pouvoir, l'idée qu'on a du pouvoir, mais comment ça fonctionne concrètement? Comment ça se passe dans la réalité? Alors cette question-là, comment, elle est vraiment importante pour Foucault. On dit souvent que la question classique de la philosophie, c'est pourquoi. Bien, des auteurs comme Foucault ou comme Deleuze, qui sont les grands auteurs du XXe siècle, les grands philosophes du XXe siècle, ils réhabilitent tout à fait la question du comment. Allons-y voir précisément dans comment ça se passe quand il y a un exercice de pouvoir. Alors cette question, elle produit quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle permet de refuser le côté un peu globalisant et substantificateur du pouvoir qui va avec la représentation classique juridique du pouvoir. C'est pas le pouvoir, par exemple. Le pouvoir, ça voudrait dire qu'il y a comme une sorte d'unité abstraite, on pourrait qualifier, elle aurait des caractéristiques communes, et ça, ce serait le pouvoir. Mais si vous dites comment fonctionne, quels sont les faits concrets du pouvoir, bien vous allez dans le tissu très complexe de la réalité, et vous allez voir dans les faits l'ensemble des transactions incessantes qui modifient, qui déplacent, qui bouleversent, qui font glisser insidieusement, enfin tout ça, tous ces déplacements parfois très minutieux, très microscopiques, qui déplacent donc les financements, les décisions, les rapports de pouvoir entre les instances locales et entre l'autorité centrale, les hiérarchies, etc. Donc la question du comment, c'est comment il y a tous ces jeux de pouvoir sur les déplacements des prises de décision, sur comment ça se passe concrètement. Ce n'est pas le prince qui décide, c'est non, allons-y voir. Quand une décision interdit ou oblige, comment ça s'est passé? Tous les phénomènes d'influence, tous les micro-petites décisions ou les micro-petits gestes qui sont à la source éventuelle d'une loi, d'une obligation, que sais-je. Alors, la notion que Foucault amène pour aller vers ce comment concret du pouvoir, c'est la gouvernementalité. Donc, ne parlons plus de pouvoir, si vous voulez, parlons de gouvernementalité. Alors, c'est une notion à la mode, et si elle a la mode, c'est une mode qui est foucauldienne initialement. C'est Foucault qui est le premier à avoir employé cette notion, à dire, voilà, on va parler de gouvernance, de gouvernementalité, précisément pour échapper à ce côté très haut en bas d'un pouvoir, et se dire, mais non, il y a plein de mécanismes très transversaux, comme ça, dans la société, qui sont des mécanismes de gouvernement qu'il faut pouvoir nommer pour les voir mieux. Donc le pouvoir, c'est pas le pouvoir de l'État sur les sujets inférieurs, c'est, disons, un pouvoir qui existe partout dans la société, qui est exercé par les uns sur les autres, dans des rapports qui sont absolument multiples, singuliers aussi. Et donc l'effet de cette notion-là, je vous ai dit que ça, les concepts sont des outils, l'effet de la notion de gouvernementalité, c'est de délocaliser le pouvoir et de le démultiplier. Il n'est pas à la tête de l'État, il est partout. Il est dans tout le tissu de la société. Alors, je vais vous proposer une série de caractéristiques, disons, de ce déplacement. Comment on fait pour, enfin, à quoi on prête attention quand on essaye de prêter attention à ce comment du pouvoir et donc à ces formes de gouvernementalité. Eh bien, d'abord, il faut se dire que le pouvoir est minuscule. C'est pas des gestes éclatants. C'est pas le truc qu'on voit et qui nous choque. C'est pas l'impôt ou le fait de couper une tête, le pouvoir. Ou c'est pas que ça, disons. C'est aussi des toutes petites choses, pas nécessairement visibles, qui se situent non pas nécessairement en haut, mais partout, en bas aussi, dans les profondeurs du corps social, dans un jeu de relations infimes entre les gens. De sorte que ce que Foucault demande, c'est une microphysique du pouvoir. Allons-y dans le détail des toutes petites choses de ce qui se passe maintenant. Où il y a du pouvoir ici, dans quel geste, dans quelle phrase que je prononce. Par exemple, si je disais « il faut savoir », je me mettrais immédiatement dans une relation de pouvoir, parce que je dirais « il faut savoir ». Donc si vous ne savez pas, ce genre de micro-choses, essayez de voir qu'il y a du pouvoir aussi là-dedans. Alors, donc, première caractéristique, il est minuscule, invisible, d'où microphysique du pouvoir. Deuxième caractéristique, les relations de pouvoir ne sont pas extérieures à d'autres relations, comme les rapports économiques, les rapports sociaux, les rapports sexuels, les rapports amicaux, les rapports familiaux, etc. Dans tous ces rapports-là, il y a des rapports de pouvoir, et même il ne cesse d'y avoir des rapports de pouvoir. Un rapport économique est un rapport de pouvoir, de la même façon qu'un rapport sexuel est un rapport de pouvoir. Donc ce n'est pas des domaines extérieurs, le pouvoir est partout. Alors s'il est partout, ça veut dire que, troisième caractéristique, il est continu, permanent, il est comme le tissu même de la vie, le tissu même des relations. Alors, quatrième caractéristique, là où il y a pouvoir, il y a résistance. C'est une grande phrase clé de Foucault qu'on peut annonner. Si on veut faire du Foucault, on peut ressortir son... Stéphanie doit s'en souvenir d'ailleurs, parce que je crois que cette phrase-là, quand on fait du Foucault à l'UNIF, elle arrive tout de suite. Là où il y a pouvoir, il y a résistance. Et cette résistance n'est pas extérieure au pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dehors du pouvoir, puisque le pouvoir est partout, il est à l'intérieur de toutes les relations. Et donc la résistance n'est pas quelque chose qui se situe à l'extérieur et qui rend possible de contester le pouvoir puisqu'il est partout. C'est qu'il faut considérer qu'il ne cesse d'y avoir des relations de pouvoir et de contre-pouvoir partout, tout le temps, qui font que personne n'est dans une relation de domination absolue parce qu'il ne cesse d'y avoir des renversements, des transformations des relations de pouvoir. Vous ne pouvez pas dire dans votre couple, par exemple, « Eh bien, c'est moi qui ai la culotte », par exemple, parce que ça voudrait dire que vous seriez toujours dans une position de domination, alors qu'il est très probable que vous le soyez ici, mais pas là, ou bien que ces choses, il y ait des contre-pouvoirs en permanence. Alors, cinquième caractéristique, elle est vraiment fondamentale pour Foucault, c'est qu'il y a un lien étroit entre le pouvoir et le savoir. C'est-à-dire que les savoirs sont tout à fait tributaires de relations de pouvoir. Le pouvoir est partout. Et il est peut-être particulièrement, ou en tout cas un intérêt à s'en rendre compte, dans la science. Il y a du pouvoir dans la science. Je vais lire un petit peu de Foucault. J'aime bien, de temps en temps, vous faire entendre un peu comment ces choses-là, comment un penseur articule des notions. Donc accrochez-vous, c'est le moment compliqué. C'est pas tant que ça, en fait. Foucault n'est pas de ces auteurs qui sont absolument illisibles. Deleuze, oui, je trouve. Foucault, voilà, ça me paraît accessible. Je vous conseillerais pas vraiment de lire. Je sais pas dans quelle mesure ça ne vous tomberait pas des mains, dans la mesure où les choses sont tellement articulées les unes aux autres qu'on doit lire 5 fois quand même un paragraphe. Vous aurez une idée, là, à quel point c'est compréhensible ou pas. Il n'y a pas de relation de pouvoir sans constitution corrélative d'un champ de savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne constitue en même temps des relations de pouvoir. Ces rapports de pouvoir-savoir ne sont donc pas à analyser à partir d'un sujet de connaissance qui serait libre ou non par rapport au système de pouvoir. Mais il faut considérer au contraire que le sujet qui connaît, les objets à connaître et les modalités de connaissance sont autant d'effets de ces implications fondamentales du pouvoir-savoir et de leur transformation historique. Ça va jusque-là ? Je peux vous demander de résumer, c'est cool, c'est facile. En bref, ce n'est pas l'activité du sujet de connaissance qui produirait un savoir utile ou rétif au pouvoir, mais le pouvoir-savoir, les processus et les luttes qui le traversent et dont il est constitué, qui détermine les formes et les domaines possibles de la connaissance. En gros, si je devais résumer en une phrase, ce serait que la question fondamentale de l'intrication pouvoir ou savoir n'est pas de savoir si les scientifiques sont indépendants par rapport au pouvoir économique ou politique. C'est pas la bonne question. La question, c'est de savoir pourquoi, à certains moments, certains objets deviennent des bons objets de science. C'est ça la question. Alors c'est une question qui intéresse particulièrement Foucault pour le domaine de la santé, c'est-à-dire à quel moment est-ce que les fous, et pour quelles raisons les fous deviennent un objet de science alors qu'ils n'ont pas été jusqu'alors ? À quel moment est-ce que le sexe devient un objet de science, un bon objet de science ? Et aussi avec quelles implications, puisque savoir et pouvoir sont intriqués, c'est intriqué aussi dans les effets, la constitution d'un objet en champ de savoir. Eh bien, ça a des effets normatifs sur les pratiques sexuelles ou sur la normalité. Hein. La folie, c'est une forme d'anormalité. Eh bien, la constitution de la folie en champ de savoir a des effets de pouvoir extrêmement forts. Donc, c'est ça qui intéresse Foucault. Même chose pour la médecine. C'est toujours intéressant de se demander, tiens, dans l'histoire d'une discipline, disons discipline, sans encore mettre de mots derrière ça, comment elle passe d'un art du soin individuel, qui est aussi un art de la persuasion. Dans l'Antiquité, un bon médecin, c'est quelqu'un qui est capable de persuader, parce que comme il est dans un domaine qui est un domaine des arts et non pas un domaine des sciences, eh bien, il ne doit pas imposer un savoir, il doit imposer une prescription, un régime, et il a besoin pour ça de faire preuve de persuasion. Donc comment est-ce que la médecine d'art du soin et d'art de la persuasion devient tout à coup une science ? Et avec quels effets ? Voilà une question à se poser. Ça m'intéresse aussi parce que, disons que la médecine et la philosophie avaient des destins initialement très liés, c'est-à-dire qu'elles appartenaient toutes les deux aux arts du soin. On pourrait oublier ça aussi, c'est que la philosophie initialement c'était une thérapie de l'âme, tandis que la médecine était une thérapie du corps, disons, mais ces deux choses étaient très étroitement liées. Pour se soigner, il faut aussi soigner son régime de vie, et le régime de vie, c'est aussi une question de thérapie de l'âme. Donc la philosophie et la médecine étaient toutes les deux des arts du soin, et puis voilà qu'à un moment, la philosophie, pas de bol pour elle, on pourrait dire, est restée étrangère à la question de la science, alors que la médecine est devenue une science. Alors de nouveau, c'est avec quels effets ? Alors on peut déjà dire, vous voyez, quelle est la place institutionnelle de la philosophie ? Un petit discours un peu impuissant, disons par exemple les philosophes ne sont pas spécialement influents, ils ne sont pas spécialement bien payés, ou enfin, je ne sais pas quoi. Il y a toujours un enjeu très concret à être du côté des sciences, et d'ailleurs on le voit d'autant mieux qu'il y a certaines disciplines qui s'appliquent absolument, comme la pédagogie, à rentrer dans le champ des sciences. La pédagogie, maintenant, on appelle ça science de l'éducation. Voilà. Alors à chaque fois, c'est qu'est-ce que ça implique, le fait d'entrer dans la légitimité toute faite de la science, et par quelle voie ça passe, et c'est aussi quelque chose qui nous intéressera à travers la notion de biopouvoir et au travers de ce qu'elle impose comme régime de gouvernementalité. Alors, je vous ai dit que Foucault rompait avec la conception souverainiste juridique du pouvoir parce qu'il s'intéressait au commun du pouvoir. Et je vous ai dit un peu quelle était cette matière première, qu'est-ce que c'était, c'est tout ce tissu de relations dans la société, tout ça, qui est continu, permanent, discret, invisible, tout ça. Maintenant, il faut ajouter une deuxième dimension, qui est plutôt la question de la technologie du pouvoir. C'est un terme qui est vraiment capital pour Foucault, Et on peut prendre la métaphore des technologies, disons, il y a les matières premières et puis la question de savoir quel usage on en fait, comment on les transforme, tout ça. Eh bien, c'est la même chose pour le pouvoir. Il y a la matière première, c'est toutes ces relations de pouvoir qui tissent sans cesse la vie humaine. Et puis, il y a la question des technologies du pouvoir, des grandes formes dans lesquelles le pouvoir passe dans une société. Et ce que Foucault dit, c'est que on a tendance à s'intéresser aux grandes inventions technologiques industrielles, par exemple à l'impact incroyable de l'invention de la machine à vapeur au XVIIIe siècle, mais qu'il faut mesurer à quel point les inventions technologiques concernant le pouvoir ont également un impact sur la forme de vie. C'est-à-dire que, effectivement, lui, ce qu'il diagnostique, c'est qu'au XVIIIe siècle, il y a des grandes inventions industrielles, mais il y a aussi des grandes inventions technologiques qui concernent les formes du pouvoir. Alors, il en propose deux, il en diagnostique deux, donc deux technologies du pouvoir, qui sont des technologies modernes, qui datent de la fin du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Et ces deux technologies, ce sont les disciplines et le biopouvoir. Alors, je vais dire un mot sur la discipline, histoire de ne pas tout de suite passer au biopouvoir, mais vous voyez, c'est des stratégies habituelles des philosophes. On finira par avoir 5 minutes pour parler du thème de la conférence, mais voilà, on aura fait un beau trajet ensemble, enfin tout ça. Alors, la discipline, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Disons que Foucault s'intéresse à la naissance du pouvoir disciplinaire, de ce qu'il appelle le pouvoir disciplinaire, à travers l'apparition de la discipline militaire fin du XVIIe siècle. Ce qu'il relève, c'est que jusqu'à la fin du XVIIe siècle, jusqu'à la guerre de 30 ans, la discipline militaire n'existe pas pour la bonne raison que ce qui existe, c'est un perpétuel passage du vagabondage à l'armée. C'est-à-dire que l'armée est une sorte d'institution qui n'existe que momentanément dans les temps de guerre, constituée par des gens qu'on recrute donc pour les besoins de la guerre, pour un temps déterminé, et auxquels on assure la nourriture par le pillage et le logement par l'occupation des territoires conquis. Autrement dit, on a là encore une sorte de pouvoir qui serait de l'ordre de celui de la souveraineté, ce qui m'amène à dire que la souveraineté, ce n'est pas qu'une représentation mythologique du pouvoir, c'est aussi une forme un peu plus ancestrale du pouvoir, et que ce qu'il s'agit de faire, c'est de penser mieux les formes contemporaines du pouvoir, c'est-à-dire ce qui s'est inventé nouvellement en matière de gestion des gens, de gouvernance. Donc jusque-là, disons qu'il y avait une forme d'échange, on prélève un temps de vie des militaires, et on le rassure, on exige d'eux aussi l'armement, donc ils doivent amener en plus, ils doivent avoir les ressources financières de s'armer eux-mêmes, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et en contrepartie, disons qu'on leur assure le gain, la grande rétribution du pillage, donc le droit du pillage. Alors ce qui se passe au milieu du XVIIe siècle, pardon, c'est qu'on voit apparaître une armée professionnelle encasernée, c'est-à-dire que les soldats sont occupés toute la journée et toute l'année, c'est-à-dire indépendamment même des périodes de guerre, jusqu'à l'acquisition, disons, de la pension. Donc, si vous voulez, qu'on est vraiment dans le système d'institution et de professionnalisation de l'armée, puisque le militaire devient un employé d'État qui travaille tous les jours comme n'importe qui d'autre et qui un jour a droit à la pension. Alors ça veut dire des choses importantes par rapport à l'évolution des guerres et à ce que c'est qu'être soldat, c'est que le soldat cesse d'être de la chair à canon, une sorte de force qui n'existe que par son nombre, qui est interchangeable, pour devenir au contraire un individu de plus en plus habile. C'est-à-dire qu'on exerce en permanence, et plus on l'exerce, plus il devient précieux. On lui apprend aussi, du coup, puisqu'il est précieux, que sa vie compte, des techniques de survie. Et plus l'apprentissage est long, parce qu'on lui apprend à frapper mieux et à servir plus longtemps, plus il est précieux. Alors, cette professionnalisation de l'armée et le fait que la vie compte, la vie du soldat compte, est la raison d'être de l'apparition de la discipline militaire, disons. C'est-à-dire que le militaire est quelqu'un qui va s'exercer en permanence précisément pour devenir plus habile à frapper et aussi plus habile à préserver sa propre vie, en même temps que devenir plus habile à agir de concert avec tous les autres. Donc il s'agit, par une sorte de répétition quotidienne d'un certain nombre de gestes, de devenir vraiment très habile et très coordonné avec le corps de l'armée. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau. De nouveau, on peut penser que ça ressemble un peu aux joutes ou aux tournois de chevalerie, qui ont l'air d'être les formes anciennes de l'exercice militaire. Mais en fait, elles n'ont pas du tout la même fonction ni la même récurrence. Ce qui compte dans les joutes et les tournois de chevalerie jusqu'alors, c'est plutôt la fonction cérémoniale. C'est comment, à travers des répétitions cycliques qui n'ont pas lieu tous les jours, mais qui ont lieu voilà, de temps en temps. Je n'ai pas fait l'histoire des tournois de chevalerie, mais ce n'est pas très fréquent. Comment on réendosse l'honneur que c'est, le privilège que c'est d'être chevalier à travers une série de rituels. Donc c'est plus ça maintenant. C'est vraiment un exercice quotidien pour devenir plus habile. Alors ce que propose Foucault, c'est de dire on a besoin de ce modèle-là. Et c'est quelque chose d'important à dire parce que c'est très critiquable en même temps. Ce que j'ai oublié de dire sur les concepts, c'est que ça reste quand même des choses très modélisées, donc très grossières dans le fond. Ça a toujours l'air un peu compliqué, la philosophie, mais en même temps, c'est toujours comme un concept. Pour moi, ça reste une sorte de gros machin là qui vous aide à voir autrement les choses, mais qui modélise la réalité, mais qui du coup aussi ne rend pas compte toujours de la complexité. Donc vous pourriez être embêté par tout ce que je vous dis, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fonction n'est pas de rendre compte de l'infinie complexité des choses, mais de modéliser pour voir quelque chose qu'on n'avait pas vu initialement dans cette complexité. Donc le modèle, disons, ce que ça permet de penser, la discipline militaire, c'est toute une série de phénomènes qui existent dans nos sociétés. Ça permet de penser à quel point, disons, nous sommes dans une société disciplinaire. C'est-à-dire que nous avons des tas d'institutions, celles par lesquelles nous passons. Ça peut être l'hôpital, l'école, l'usine, l'entreprise, la caserne, enfin, l'université. Enfin, toutes les grandes institutions de notre société fonctionnent, selon Foucault, de la même façon, avec ce même type de discipline. Et donc l'armée est une sorte de modèle pour penser tous les champs de l'activité humaine dans la société contemporaine. Tous ces lieux où l'ordre est nécessaire comme condition de la vie collective. Alors on pourrait du coup définir la discipline comme une des modalités d'un pouvoir qui agit par formatage. Ce formatage, il se fait par l'entraînement régulier, par les exercices. Pensez à la place des exercices dans plein de champs différents, à l'acquisition des habiletés, toujours à travers des exercices, par la routine, par l'imposition de rythmes collectifs. Pensez à quel point, j'en avais parlé l'année passée, à quel point nous vivons sous la contrainte de rythmes que nous ne choisissons pas, parce que nous ne choisissons pas quels sont les rythmes du travail, quels sont les rythmes de l'école, à quel moment les magasins sont ouverts, etc. Tout ça sont des indications d'une société disciplinaire qui fonctionne comme l'armée ou comme le monastère, c'est-à-dire les choses sont réglées rythmiquement. Alors ça, un autre moyen, disons, du formatage, c'est aussi la surveillance permanente. La discipline militaire est une discipline où il y a toujours de la surveillance. Il faut toujours faire corps avec tous les autres. Et cette façon de faire corps implique qu'on regarde, on ne cesse de regarder. Et vous pouvez penser aussi à quel point nous sommes dans une société de la surveillance, mais on aura l'occasion d'y revenir parce que c'est aussi un des éléments absolument centraux du biopouvoir. Alors, à quels objectifs ? Quels sont les objectifs de la discipline ? Le premier grand objectif, c'est l'efficacité. Comment intensifier les performances individuelles, les capacités, de façon que quelqu'un soit de plus en plus utile à la société. et penser à quel point ce mot d'ordre de l'efficacité est un mot d'ordre banal qui va de soi, mais soupçonner qu'à chaque fois qu'on parle d'efficacité, ben on est peut-être dans quelque chose de disciplinaire, au sens où ça a été très utile d'instaurer une discipline militaire, précisément, pour rendre les soldats beaucoup plus efficaces qu'auparavant. Et le deuxième objectif, ce serait pour Foucault l'ordre social, qui est aussi la façon de coordonner les différentes personnes. L'ordre, c'est aussi une des conditions de l'efficacité. Si on veut être efficace collectivement, on est obligé d'avoir des hiérarchies, une sorte d'ordonnancement, de procédure qui codifie un peu les actes. Quelle heure est-il ? D'accord. Bon, allons-y sur le biopouvoir. Je vous avais dit qu'il resterait 5 minutes pour parler du biopouvoir, qui était le thème de la conférence. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Je ne sais pas si ça vous rassure. Disons qu'on va se donner encore 25 minutes. Le biopouvoir, donc, ce serait la deuxième technologie moderne du pouvoir. Alors, contrairement au pouvoir disciplinaire qui s'intéresse aux individus, c'est-à-dire il y a toujours le soldat, l'élève qu'on essaye d'entraîner parce que c'est son habileté individuelle qui compte et qui sera une acquisition sociale, disons. Contrairement à ce pouvoir que Foucault appelle individualisant, il y a plein de raisons pour lesquelles il utilise ce mot-là, mais passons. Le pouvoir, le biopouvoir, est un pouvoir qui est plutôt global, qui est un pouvoir qui s'intéresse non pas aux individus, mais à la population. Donc, c'est un pouvoir de l'État, pas un pouvoir des surveillants ou des maîtres d'école ou de toute une série de relais, disons. C'est le pouvoir d'un État et particulièrement d'un État-providence. Alors, c'est vraiment important cette notion-là en corrélation avec le biopouvoir. Ça pose la question de savoir à quel moment et pour quelle raison l'État-providence est-il apparu, avec quels effets du point de vue des technologies du pouvoir ? C'est ça la question, disons, du biopouvoir. Alors, je définis d'abord l'État-providence comme un État qui se charge de la santé de la population de façon que chacun vive plus longtemps. Je ne sais pas si vous pourriez m'accorder ce type de définition assez large. Un État qui se soucie de la santé de la population, voilà. C'est-à-dire que si on veut faire une rupture par rapport au pouvoir souverain, la conception traditionnelle du pouvoir, le pouvoir souverain, c'était davantage un pouvoir de vie ou de mort, c'est-à-dire souvent plutôt un pouvoir de mort, envoyer les conscrits à la guerre ou bien condamner à la peine capitale, un pouvoir de mort éclatant. Ici, on a affaire à un pouvoir qui est plutôt un pouvoir de vie, bios. C'est ça, hein, c'est la vie en grec, un pouvoir de vie. Ça a l'air vachement bienfaisant, hein, du coup, mais comme je vous ai dit, on va essayer de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Un pouvoir de vie dont l'objectif est de faire vivre le plus longtemps possible, le plus de gens possible. Alors ça paraît irrésistible, ça. Qui d'entre vous ne veut pas vivre le plus longtemps possible ? Eh bien, autant vous pouvez vous dire, il est probable que tout le monde souhaite vivre le plus longtemps possible, autant vous pouvez soupçonner là une force d'évidence incroyable qui va s'agir de lever pour aller soupçonner ce biopouvoir un tout petit peu plus loin, pour aller en étudier un petit peu plus loin les implications, les mécanismes. Alors, le biopouvoir, je vous ai dit que c'est un pouvoir qui s'intéresse donc au fait de faire vivre le plus longtemps possible, mais c'est faire vivre le plus longtemps possible la population, donc une masse. Ça veut dire que quand on s'intéresse au biopouvoir, historiquement, on s'intéresse au moment où la santé est devenue un problème public. C'est-à-dire que ce n'est plus la santé individuelle et la médecine comme une relation individuelle entre un médecin et son patient, le patient choisissant d'initiative personnelle parce qu'il en a les moyens aussi, hein, d'aller chez le médecin. Ce n'est plus de ça dont on parle, mais on parle plus exactement d'un moment dans l'histoire où la médecine a pu devenir une médecine d'État, une médecine sociale, c'est-à-dire une médecine qui ne s'intéresse pas qu'à la santé individuelle de chacun, mais qui s'intéresse à la santé publique. Donc c'est aussi le moment où des mots comme celui-là, santé publique, apparaissent, et les raisons pour lesquelles ça peut apparaître, les raisons pour lesquelles le pouvoir, à un moment donné, fait sien cet objet qu'est la santé de la masse, de la population. Alors, une première évidence, c'est que la raison pour laquelle la santé publique devient un objet possible, valable, c'est le phénomène de la contagion. À partir du moment où il y a de la contagion, on peut se dire, c'est évident que l'État doit s'intéresser un tout petit peu à la santé, parce que la santé de quelqu'un, un individu, a un impact sur la santé de toute la population. Sauf que précisément, ce que montre Foucault, c'est qu'il y a eu deux façons très distinctes de gérer la contagion, et donc deux modèles distincts de santé publique. Il y a eu le modèle du traitement de la lèpre au Moyen-Âge, et il y a eu le modèle du traitement de la peste. Et ce qu'il veut dire, c'est que le modèle qui s'est imposé et qui signe la naissance du biopouvoir, c'est le modèle du traitement de la lèpre. La peste, pardon. Alors allons-y sur ces deux modèles. La peste, elle était considérée comme un châtiment de Dieu. J'ai dit quoi ? J'ai dit la peste ou la lèpre ? C'est la lèpre, oui. Alors c'est bien, vous allez bien vous y retrouver. Donc je parle de la peste, non, de la lèpre. Donc la lèpre, allons-y. La lèpre. Donc la lèpre, elle est considérée comme un châtiment de Dieu, donc, et elle inspire une sorte de terreur religieuse, mystique, enfin je sais pas. Et le traitement médical, du coup, sera aussi très proche des voies religieuses, disons. On aura plus une médecine apparentée à la religion qu'une médecine scientifique. Alors, comment traite-t-on la peste, la lèpre? La lèpre, j'essaie de me reconcentrer. Mais la lèpre, mais vous suivez bien, c'est extra. Il y a une sorte de cérémonie qu'on appelle la separatio leprosorum. Je m'étais juré de mettre un peu de latin, c'est fait. Pendant laquelle le lépreux est déclaré mort civilement et exclu de la communauté. Alors, cette exclusion, elle peut prendre la forme d'une sorte de d'inhumation auquel le lépreux assiste lui-même. Donc, il est comme symboliquement enterré. On justifie cette exclusion à la fois pour des raisons religieuses et pour des raisons médicales, c'est-à-dire que c'est un bienfait pour le lépreux lui-même que d'être exclu de la communauté, parce que ce passage qui le sort de la communauté des hommes est le passage qui assure son salut dans l'au-delà. Donc en fait, chacun est justifié à dénoncer le lépreux parce que c'est comme un bienfait pour ce lépreux lui-même. Donc le lépreux est exclu de la ville, il est mis à l'écart géographiquement et symboliquement, il est exclu de toutes les façons de la communauté humaine, et c'est ce qu'on appelle effectivement la médicalisation. La médicalisation de la lèpre, quoi. Médicaliser un individu, ça signifie le séparer, le couper, comme on couperait un membre malade, et de cette façon, purifier les autres. Donc le lépreux est exclu. Et par contre, le pestiféré, lui, ne sera pas exclu. Il sera surveillé de façon extrêmement étroite pour protéger les autres. Donc, la différence du traitement, c'est le traitement par exclusion, hors de la communauté, de façon à la protéger. C'est ça, la médicalisation de la lèpre. La peste, en revanche, passera par une série de mesures de contrôle extrêmement fines et permanentes. Il s'agira de mettre la population sous la surveillance la plus étroite, de façon à s'assurer la connaissance de l'évolution de l'épidémie. Alors, comment ça se passe ? D'abord, un quadrillage de la ville est organisée, on la divise en districts, chaque district en quartier et chaque quartier en rue distincte. On nomme à tous ces étages des surveillants de quartier, des inspecteurs pour chaque district et des responsables de district. Des surveillants pour chaque rue, des inspecteurs pour chaque quartier et des surveillants de district pour chaque district. Voilà. Deuxième mesure qui est prise, la ville est immobilisée. Donc elle est quadrillée, surveillée étroitement. Hein, et puis elle est immobilisée, c'est-à-dire il y a interdiction absolue de circuler. On tue tous les animaux errants. Et on interdit aux gens de circuler. Donc chaque habitant est enfermé chez lui. Alors il y a un recensement de chaque habitant qui se fait véritablement à l'occasion des pestes. On ramasse toutes les clés des différentes maisons pour être sûr que personne ne puisse sortir de chez lui. Circule dans la ville uniquement ces différents surveillants, inspecteurs, etc., qui sont là pour contrôler, et aussi les intendants qui sont là pour l'approvisionnement, et ce qu'on appelle les corbeaux qui sont là parce que leur vie n'a aucune importance, et ils sont là pour débarrasser les corps des morts. Alors la surveillance proprement dite, elle est le fait des inspecteurs. Les inspecteurs qui passent tous les jours devant chaque maison, ils sont responsables d'un quartier, ils passent tous les jours devant chaque maison, à charge pour chaque habitant de se présenter devant la fenêtre, et même chacun sa fenêtre, si possible. Si c'est possible, s'il y a suffisamment de fenêtres dans une maison, autant de fenêtres que d'habitants, chacun sa fenêtre. Et on relève, jour après jour, ceux qui se présentent à la fenêtre pour tenir une sorte de recension, jour par jour, qui donne un état de l'évolution de l'épidémie. Voilà comment ça se passe. Donc on a un modèle de la vérification permanente de la vitalité de la communauté qui est figée, qui ne peut plus bouger. Et on a une médecine qui est fondée sur la surveillance. Alors c'est cette médecine-là qui, selon Foucault, est la médecine qui inspire la médecine contemporaine, ou du moins qui inspire la médecine dans sa dimension sociale, la médecine d'État, est une médecine qui a pour fonction de vérifier en permanence la santé de chaque personne. Alors les instruments de cette surveillance ne seront plus cette façon de quadriller les secteurs, quoique hein, les outils qui sont acquis alors de recension sont toujours bien des outils de gouvernement actuellement. Hein, on sait toujours le nombre d'habitants exact. Mais il y aura une gestion de la santé publique qui passera par la statistique, par les courbes qu'on va cesser d'établir, qui permettent de savoir qui sont les populations à risque, quel est le taux de natalité, de mortalité, d'établir ainsi aussi les évolutions des épidémies, des endémies, etc., et d'avoir des campagnes de prescription d'une série de mesures qui permettent de soigner la population comme un corps global. Alors il faut que je dise un mot quand même sur cette notion de population, parce que précisément ce qu'elle dit, cette notion-là, c'est quelque chose comme le fait que la masse des gens est regardée à travers une série d'indicateurs biologiques. Donc la population, c'est un terme qui apparaît au XVIIIe siècle, au moment où cette médecine d'État apparaît, et ce traitement qui est plutôt proche de la peste que de la lèpre. Cette notion de population, elle apparaît précisément non pas pour nommer une sorte de paquet, de masse de gens, mais pour nommer précisément les êtres traversés, régis par des processus ou des lois biologiques. Donc, si vous voulez, la notion de population, c'est comment on regarde un groupe au travers d'une grille qui est biologique. Et c'est à ce moment-là qu'on s'intéresse aux statistiques, aux courbes de natalité, de mortalité, etc., qui sont les outils qui permettent de gérer une population. Autrement dit, à travers cette notion de population, à travers ce modèle de la peste, ce qui s'impose, c'est bien un biopouvoir, et revenons au sens de ce mot-là. Ce que signifie biopouvoir, c'est que le pouvoir est devenu très matérialiste. C'est-à-dire, il s'intéresse vraiment au corps, il s'intéresse au processus biologique. On avait un pouvoir qui s'intéressait au sujet, qui était presque des fictions juridiques. Et maintenant, on a un pouvoir qui s'intéresse au contraire au corps des gens, qui surveille les corps, qui passe à travers les corps. C'est-à-dire que ce qui paraît incroyable à Foucault et vraiment à relever, c'est que les rapports de pouvoir, c'est pas très spirituel, ça passe dans la chair elle-même, ça passe à travers une série de procédures, de choses qui sont de l'ordre de l'hygiène quotidienne, qui sont des choses qui concernent l'État. C'est-à-dire que l'État, à partir du XVIIIe siècle, il est concerné par les questions d'hygiène. Hygiène publique est d'ailleurs un terme qui apparaît à cette époque-là. La médecine se lie à la chimie, elle devient une discipline biochimique, précisément à partir du moment où les médecins commencent à surveiller le corps, et le corps dans ses interactions avec un milieu. C'est-à-dire ce à quoi on s'intéresse dans les cas de peste, c'est l'influence du milieu comme vecteur de la maladie, les eaux, la circulation de l'air, etc. Tout ça commence vraiment à être un objet de science, et de sorte que la médecine, si elle devient à un moment donné une science, c'est intriquée dans un champ de savoir qui est le savoir biochimique. Donc si, par exemple, vous n'avez pas de cours d'histoire de la médecine, mais des cours de chimie et des cours de biologie, c'est précisément en raison de cette histoire de la médecine qui l'a intégrée parmi le registre des sciences biochimiques. Alors maintenant, il reste... Enfin, ça dépend du temps. Ça va. OK. Alors maintenant, il reste pour moi deux choses vraiment à souligner, qui en fait consistent à moins mettre l'accent sur la médecine et comme une sorte de focale qui est un peu gênante, qui dirait les médecins sont des sales types parce que c'est des types par lesquels le biopouvoir, qui est un truc qui vous observe dans vos molécules, enfin je sais pas quoi, quelque chose qui serait un peu gênant là. Ce que je veux faire, donc, c'est dire d'une part que la médecine, les médecins eux-mêmes ne sont pas les instruments de ce pouvoir, les instruments conscients d'exercer ce type de pouvoir, les instruments d'un pouvoir intentionnel. Ils sauraient bien qu'ils vous observent à la loupe pour voir à travers la grille des courbes de natalité, mortalité, etc. C'est que ce conflit, il existe aussi chez les médecins entre la médecine qui reste quelque chose, une discipline qui est sanctionnée par un diplôme légal, un titre légal. Ce titre est d'ailleurs le fruit d'un cursus qui est surveillé par des instances qui sont des instances politiques. La médecine est encadrée par tout un appareil administratif, ça reste très vrai, et les médecins peuvent subir aussi ce côté médecine sociale, médecine d'État. Et ils sont eux-mêmes potentiellement pris dans le fait que la médecine est à la fois une médecine d'État, corsetée comme telle par une série de législations, et en même temps qu'eux restent potentiellement dans un art du soin. C'est particulièrement vrai, je parlais un peu avec mon père justement, qui est un médecin généraliste, il était scandalisé à peu près par cette idée de biopouvoir, en se disant « mais attends, c'est comme si tu me présentais comme un salaud ». Et en fait, moi, je subis absolument ce côté médecine d'État. Je suis contraint sans cesse de savoir qu'est-ce que je prescris, est-ce que je prescris autant de ce médicament-là. Je dois rendre des comptes en permanence. Et mon activité de soins, qui est aussi une activité de rapport humain, je m'intéresse, et de persuasion d'ailleurs, hein, très clairement. Je suis en rapport avec des gens qui parfois comprennent pas, qui parfois résistent, et je suis obligée d'entrer en dialogue avec eux pour que ce que je leur dis ait une pertinence et une valeur à leurs propres yeux, tout ça. Donc voilà, je veux vous rappeler ça aussi. Ne sortez pas d'ici en allant jeter des pierres sur la plaque de votre médecin généraliste. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Alors l'autre chose que je veux dire, c'est que cette notion de biopouvoir nous concerne tous autant qu'elle ne concerne, disons, les médecins. Alors je veux le dire dans deux sens. D'abord, parce que ça, c'est une illustration, disons, d'un mode de gouvernement qui est très très prégnant. Donc ce que je vous propose de faire, c'est comme d'élargir la focale, on part du biopouvoir et on essaye de voir de quoi il est représentatif d'une forme de gouvernement extrêmement présente aujourd'hui, d'une part, et puis d'autre part, de réduire la focale en essayant de voir comment le biopouvoir s'articule à la famille et donc comment nous sommes nous-mêmes les bras armés du biopouvoir sans le savoir. Alors, d'abord, élargir. Alors, comment est-ce qu'on élargit ? Enfin, dans le fond, ce que fait Foucault, c'est qu'il dit que si on veut comprendre le biopouvoir, on doit comprendre de quelle façon il est un régime de gouvernementalité imposé par le libéralisme. Alors, plus la société est libérale, néolibérale, disons, plus le biopouvoir est un pouvoir puissant. Or, comme vous le savez, on est probablement dans une société qui devient de plus en plus libérale, et donc c'est intéressant de s'intéresser, enfin de se questionner sur cette notion de biopouvoir, parce que justement, elle pointe une dimension du pouvoir qu'on ne voit peut-être pas nécessairement et qui est pourtant de plus en plus présente. Alors, il faut d'abord faire les intrications, donc il faut tracer les intrications entre le corps, puisque c'est l'objet même du biopouvoir, et l'économie. La première chose qu'on peut dire, c'est que historiquement, ces intrications sont étroites. C'est-à-dire que à quel moment est-ce qu'on s'est intéressé, du point de vue politique, à la question du corps ? Eh bien, c'est quand le corps a été reconnu comme une force de travail et qu'il fallait donc soigner pour préserver, disons, l'économie nationale et pour assurer l'accroissement de la production. Donc en fait, ça s'est passé historiquement avec ce qu'on appelle la loi des pauvres en Angleterre, qui est une loi qui date de 1547, et qui est à l'origine de la sécurité sociale, du système de soins de santé. C'est-à-dire que la réflexion qui s'est faite, c'est que il fallait garantir l'état de santé des nécessiteux qui, d'une part, formaient une main-d'œuvre utile, et par ailleurs, garantir l'état de santé des nécessiteux, des pauvres, etc., c'était aussi protéger le corps des autres, de sorte qu'on avait prélevé un impôt chez les plus riches à des fins d'assistance médicale des plus pauvres. Et le contexte, c'était effectivement protéger la production, protéger le travail en médicalisant de façon autoritaire, indépendamment de leur volonté, le corps des pauvres. Alors ça, c'est historiquement, c'est comme ça que ça s'est noué, selon Foucault. Alors maintenant, il faut aussi comprendre l'espèce de paradoxe qu'il peut y avoir entre un gouvernement libéral et une technique de pouvoir qui passe par la surveillance. Je vous ai décrit le modèle de la peste, le modèle de la surveillance, quoi, dans le détail. Comment c'est possible ? Comment vous arrivez à mettre côte à côte libéral et surveillé au quotidien, dans le détail, dans les plus petites choses ? Eh bien, ce qu'on peut comprendre, en fait, c'est que ce paradoxe, il tient à une sorte de mot d'ordre du libéralisme qui est toujours « comment ne pas trop gouverner ?». Donc il y a toujours une sorte de frugalité du pouvoir dans les systèmes libéraux, mais que ça va impliquer des formes de pouvoir tout à fait différentes de celles qui existaient auparavant. C'est-à-dire que la question qui se fait jour quand on se dit « il ne faut pas trop gouverner », c'est celle de la légitimité du pouvoir. Donc on n'admet plus du tout l'espèce d'autoritarisme du prince qui coupe des têtes, etc. Il va devoir y avoir une légitimité des interventions autoritaires. Alors ça va se faire par le développement d'une rationalité tournant principalement autour du calcul et des statistiques. c'est-à-dire ne pas trop gouverner, c'est gouverner de façon légitime, c'est-à-dire c'est laisser les chiffres gouverner à la place du souverain. Donc la légitimité du pouvoir, c'est que le pouvoir ne dépend plus d'une décision, d'un choix qu'on pourrait toujours contester comme arbitraire, mais qui dépend d'un calcul. Donc en fait, ce que ça montre, c'est l'articulation entre cette idée ne pas trop gouverner et le fait qu'on a de plus en plus des gouvernements par les statistiques. Alors ça aussi, ça a une histoire, le moment où dans l'histoire apparaît par exemple le tableau, comme un objet nouveau qui visualise les chiffres, qui gagne quoi, ce genre de choses. Ça apparaît au XVIe siècle et puis ça n'a cessé de devenir un instrument toujours plus puissant de gouvernement. De sorte qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est davantage gouverné par des experts que par des politiques, au sens où c'est toujours au bout du compte, derrière des processus de calcul, que les décisions politiques s'abriteront. Alors c'est comme si on supprimait la dimension de décision, donc de valeur, de débat politique qu'elle peut entraîner, pour une dimension de constat. Il s'agirait que de relever la réalité au travers de grilles, de statistiques, de tableaux, pour que s'impose d'elle-même la solution. J'imagine que ça vous dit quelque chose, ce gouvernement par les experts que finalement on ne cesse de voir à l'œuvre. Alors vous devez mesurer aussi à quel point ça va loin, disons, le gouvernement par les statistiques, parce que les statistiques deviennent toujours plus fines, toujours plus puissantes. Alors il y a d'abord les processus de data mining. C'est-à-dire, data mining, c'est l'ensemble des technologies susceptibles d'extraire des informations commercialement utiles tous les clics que vous pouvez faire sur Internet, par exemple. Est-ce un hasard si vous propose une publicité, ski set, alors que vous venez de regarder dans quelle station de ski vous alliez vous rendre, vous venez de cliquer sur 3 chalets en Suisse, et puis, oups, qui s'est arrive. Donc ça, c'est vraiment tout un processus qui combine de façon informatique les informations que vous ne cessez de donner par de simples clics pour les traiter et pour vous proposer des choses qu'on estime commercialement aguichantes, ou je sais pas... Alors il y a la même chose dans le domaine de la vidéosurveillance intelligente, donc plutôt objectif sécuritaire, objectif marketing ici, objectif sécuritaire. Donc l'objectif c'est de prévenir les comportements terroristes. Donc vous voyez, on va encore investir un tout petit peu plus probablement dans les semaines qui viennent, dans les années qui viennent, dans la vidéosurveillance intelligente, comment ça se passe. Eh bien c'est des caméras qui relève le maximum de données et qui croise ces données indépendamment de tout tri qui serait fait par quelqu'un qui établirait des corrélations. C'est-à-dire que, par exemple, on a filmé un terroriste qui a agi. On a relevé des tas d'informations sur, il était habillé comme en noir, il avait une casquette, ses yeux, ses globes oculaires faisaient comme ça... il avait tel type de démarche et des tas de choses qu'on ne soupçonne pas sur sa température corporelle, sur les micro-mouvements qu'il ne contrôle pas lui-même, et qu'on établit des lignes de corrélation qui déterminent des profils et des possibilités d'action future. Donc on pourrait prescrire que vous risquez d'agir comme un terroriste parce que vos globes oculaires ont fait ça, que la température corporelle est de 38,2 et qu'en même temps, corrélation de tous ces phénomènes-là qui permet de prédire un comportement. Alors ce qu'il y a, c'est que cette forme de gouvernement, elle est de plus en plus légitime, de plus en plus présente et que s'oublie ce qui relève des valeurs ou même ce qui parfois est à la source des grilles de lecture, des tableaux qu'on établit et qui se présentent toujours sous l'espèce de tableau lisse, de façade lisse objective du chiffre, de sorte que les débats pourraient disparaître par une sorte de mathématisation des décisions politiques. Alors j'en viens à la deuxième façon de vous montrer que la notion de biopouvoir peut vous concerner, nous concerner tous, qui est la question du rôle de la famille, disons, dans ces biopouvoirs. Alors, Foucault souligne une chose qui est un peu contre-intuitive. Disons qu'il fait l'hypothèse que, d'abord, les sentiments d'affection qui unissent une famille, ces sentiments sont historiquement déterminés. C'est-à-dire, il ne faut pas naturaliser tout ça, il ne faut pas penser que nous aimons nos enfants en fonction d'un instinct maternel qui serait donc, qu'on retrouverait dans toutes les sociétés, dans tous les âges, etc. En fait, l'histoire prouve que c'est faux, l'histoire ou l'anthropologie. Et donc, ce qui l'intéresse, c'est d'étudier le moment de l'apparition des sentiments d'affection. Alors, ça a été fait aussi par un historien, peut-être vous avez entendu parler de Philippe Ariès, qui est un historien de la famille, qui a montré comment le sentiment d'affection qui lie les membres d'une famille est apparu au XVIIe siècle. En fonction d'une série de modifications qui sont faites, notamment parce que les enfants qui étaient jusqu'alors en nourrissent tout de suite, et puis à partir de l'âge de 7 ans, qui étaient placés au service d'autres personnes, et donc ces conditions très matérielles ne permettaient pas l'éclosion de sentiments parents-enfants, puisque les enfants étaient tout de suite soustraits, disons, à l'environnement des parents, eh bien, c'est l'évolution de ces conditions matérielles qui ont rendu possible l'éclosion d'un sentiment affectif dans la famille. Alors ce que Foucault dit, lui, c'est que en fait, cet intérêt sentimental neuf au XVIIe siècle il serait plutôt comme une conséquence de l'émergence du biopouvoir. C'est-à-dire que ce qu'il suppose, c'est qu'il y a deux questions biopolitiques, typiquement biopolitiques, qui se posent. C'est la question de savoir comment on peut amener une population à faire plus d'enfants. Hein, c'est la question des taux de natalité, comment conduire les gens à avoir plus d'enfants, de façon à gérer aussi le flux des populations. Et puis la deuxième question, c'est le taux de mortalité, c'est-à-dire de mortalité infantile qui est particulièrement élevé. Comment s'assurer des conditions physiques, économiques, de la survie des enfants ? Et que c'est à travers ces deux questions-là, c'est parce que ces deux questions ont commencé à devenir des questions politiques importantes, que l'État s'est intéressé à la famille et que la famille, du coup, est devenue autre chose que ce qu'elle était auparavant. C'est-à-dire qu'elle a d'abord été une cellule socialement utile parce qu'elle permettait la transmission d'un patrimoine. Mais qu'elle a commencé, à partir du moment où ces questions biopolitiques se sont posées, à devenir au contraire un lieu d'investissement du pouvoir biopolitique. C'est-à-dire que le biopolitique s'est intéressé à tiens, comment ça fonctionne une famille. Et qu'on a vu naître un ensemble de prescriptions extrêmement soignées sur comment emmailloter les enfants, quelle nourriture leur donner, est-ce qu'il faut les coucher sur le ventre ou sur le dos, etc. Et que ça, c'est typiquement les préoccupations du biopolitique qui ont créé, selon Foucault, les conditions de l'investissement affectif incroyable des parents à l'égard de leurs enfants. Donc ce sentiment-là serait le fruit d'un concernement premier de l'État pour la famille comme lieu de gestion de la mortalité infantile. Ça paraît un peu énorme. Mais ce que ça voudrait dire, c'est que, disons que les sentiments de culpabilité que vous pouvez avoir parce que vous avez l'impression de ne vous occuper pas bien de vos enfants sont historiquement datés, qui sont typiquement des réflexes du biopolitique, que le biopolitique a fait naître en vous. Même chose sur la question du contrôle. Je vous ai dit que le biopolitique, c'était un pouvoir qui contrôlait dans le détail. Peut-être que vous pouvez vous dire ça. Moi, j'entends assez régulièrement des gens dire, même quand j'étais petit, disons, la surveillance dont on entourait les enfants était nettement moindre, et que l'accroissement du biopolitique pourrait se sentir aussi à travers l'accroissement de la surveillance, c'est-à-dire la responsabilité qui pèse sur les parents d'éviter à leurs enfants tous les risques. Alors que ça, ce serait de nouveau comme la façon dont le biopolitique s'est incarné dans des réflexes qu'on estime absolument naturels, normaux, mais qui sont en fait historiquement datés. Voilà. Donc nous sommes tous des salauds, c'est-à-dire les instruments du biopolitique. À vous, Cognac G.
Voilà, je remercie Gaël Jean-Marc de nous avoir donné un éclairage sans doute en bonne partie inattendu sur ces questions de la médecine et du pouvoir médical aussi. Alors, je vous cède tout de suite la parole pour des questions, des réflexions, des contestations éventuelles.
Monsieur lève la main quand tu dis contestation. Jusqu'à là, il disait est-ce que j'interviens ou pas, mais là...
Comment est-ce que vous placez le développement d'individualisme alors dans toute cette évolution qui nous fait croire à une liberté individuelle de plus en plus grande, mais qui, semble-t-il, est tout à fait illusoire, semble-t-il.
Oui, ah, c'est une question importante pour Foucault. Alors, il faut faire un premier déplacement très contre-intuitif, c'est de se dire que individu, c'est pas le rapport qu'on a à soi-même de façon permanente et non historique. Individu, ça n'existe qu'à un moment de l'histoire et c'est l'effet d'une certaine organisation sociale. C'est précisément le moment, selon Foucault, quand est-ce qu'on devient des individus et quand est-ce que l'individualisme naît. Eh bien, c'est avec l'apparition des disciplines. Il dit que le modèle, la façon de penser cette individualisation, c'est en allant du côté du pouvoir, du côté des monastères et de ce qu'on appelle le pouvoir pastoral. Le pouvoir pastoral, c'est un pouvoir typiquement individualisant, c'est-à-dire c'est un pouvoir qui passe par la connaissance de chacune des brebis. Il faut qu'on la connaisse dans le détail, mais ça veut dire que ça modifie aussi le rapport que chacun a à lui-même, que chaque brebis a à elle-même et qu'elle devient alors un individu. C'est une création historique. Avant, on a un autre type de rapport à soi-même. Donc, en fait, l'individu, votre question est absolument pertinente. Ce que Foucault veut dire, c'est que l'individu, c'est la résultante d'un mécanisme de pouvoir qui est le pouvoir disciplinaire. C'est un peu gros, hein, mais c'est...
D'autres questions ?
C'est plutôt un commentaire. C'est plutôt un commentaire. Je voudrais illustrer un peu.
Vous êtes médecin, je crois, c'est ça ?
Oui.
Oui, semblait bien.
Cette influence de l'influence du biopouvoir actuel, où somme toute, on a un peu l'impression que, avec le passage vers la science, se sont créés de nouveaux commandements. Hein, tu ne boiras pas. Point, tu ne fumeras point, tu marcheras une demi-heure par jour, tu mangeras 5 fruits, 5 légumes. Et on a un peu créé une sorte d'hypocondrie chez les gens bien portants. Et donc, ça va dans le sens de ce que vous dites là. On veut supprimer toute notion de risque, toute notion de prise de risque individuelle au détriment d'une prise en charge tout à fait globale. Voilà.
Oui, c'est vrai, c'est vraiment le développement de l'hygiène, c'est-à-dire chacun devrait assumer pour lui-même d'avoir un corps sain, et que ça c'est vraiment une terrible injonction en fait qui naît du biopouvoir.
Ça crée de terribles peurs.
Oui.
Les gens ont peur aujourd'hui.
On va tous mourir.
Est-ce que le biopouvoir, c'est pas aussi le pouvoir d'une certaine biochimie, notamment en neurobiologie, qui nous montre de plus en plus la détermination de nos comportements, et on peut mettre ça en contraste avec les notions de libre arbitre et de liberté dont on nous a tellement serinés quand nous étions plus jeunes. La détermination de nos comportements par les découvertes que fait la neurobiologie.
Pensons par exemple,
c'est les molécules qui servent d'antidépresseurs.
Alors déjà, Foucault, je crois qu'il ne pourrait pas penser le libre arbitre, ce serait une sorte de fiction religieuse initialement, le libre arbitre. puisque lui, il parle plutôt de processus de subjectivation, c'est-à-dire tout ce qui nous crée comme sujet. Et parmi tout ce qui nous crée comme sujet, il y a toutes les technologies. Par exemple, un sujet, sujet c'est le mot philosophique pour quelqu'un, quoi. Mais on n'est pas sujet de la même façon avec Internet, le GSM qu'on a au bout du pouce. Tout ça détermine une façon d'être qui est typée historiquement. Je dirais, c'est plus ça qui l'intéresse de penser que presque l'action immédiate de la chimie sur, sur le... Ça intéresserait plutôt de savoir pourquoi la chimie a investigué le fonctionnement cérébral et pourquoi, à un moment donné, on a créé des médicaments qui avaient des effets antidépresseurs et pourquoi même la dépression est devenue une maladie. Enfin, tout ça l'intéresse beaucoup. Comment ça devient des objets de science, justement, plus que vraiment les effets... déterminant de la biochimie sur le comportement.
D'autres questions, remarques ?
Allez, une dame pour changer, non ?
Ah.
C'est la part féminine de monsieur qui va s'exprimer.
Merci. Donc, professeur, j'ai relevé tantôt que ce sont les experts qui gouvernent, pas le politique. C'est bien ça.
Oui, c'est bien ça. Moi, ouais, c'est-à-dire que ce qui fait que la légitimité d'une action politique, c'est toujours de se cacher, de s'abriter derrière des expertises économiques. On parle de crise, machin, bon, on va faire intervenir les économistes et les économistes vont d'eux-mêmes déterminer quelle est la juste procédure.
J'aurais une question sur les deux modèles qui sont présentés de la lèpre et de la peste. Comment est-ce que la peste était traitée avant, au Moyen-Âge, et est-ce que ça justifie le changement ? Dans les deux cas, ça me semble un peu gênant par rapport au modèle qu'il propose. Et d'autre part, il me semble que le mode de contagion n'est pas tout à fait le même avec la lèpre et avec la peste. On n'a pas, pendant une période assez courte, beaucoup de gens qui deviennent tout d'un coup malades dans une région... dans une ville avec la peste, qui fait que la surveillance n'est pas du même ordre et on ne se sent pas touché de la même manière et on peut isoler et exclure beaucoup plus facilement. Or, je sais que c'est des modèles et que ça ne remet pas en cause son biopouvoir, mais ça cogne un peu aux encornures et ça me dérange un peu. Est-ce que tu aurais des réponses à ça ?
Non. C'est-à-dire, je peux dire comment fonctionne Foucault et comment il se trouve en but à des remarques de ce type en permanence. C'est-à-dire que effectivement, il s'appuie toujours sur l'histoire. Alors une histoire qui est très particulière parce que c'est rarement l'histoire habituelle des historiens. Il va chercher des choses qui ne sont pas objets d'histoire, justement. Il fait l'histoire des sentiments, l'histoire des rapports de pouvoir, enfin tout ça, et des objets bizarres pour les historiens. Et donc il y a toujours des conflits de territoire, savoir si Foucault est historien ou bien s'il est philosophe. Eh bien, il a un usage philosophique de l'histoire, donc il passe un certain temps à enquêter, par exemple, sur l'histoire des deux modèles, là. Alors, c'est pas une longue enquête, hein, c'est l'objet d'un court article, donc il n'a pas passé des années de sa vie sur ces questions-là, parce qu'il s'est intéressé beaucoup plus à l'histoire de la sexualité ou à l'histoire de l'enfermement, donc de la prison. Donc voilà, il a travaillé assez peu là-dessus. Ce qui l'a intéressé, c'est de modéliser. Donc c'est contestable. Par contre, c'est des modèles qui ne se succèdent pas historiquement. Pour lui, c'est deux modèles qui sont les modèles de traitement distincts au Moyen Âge. C'est pas d'abord ça, puis ça. C'est effectivement, c'est sûrement lié aux maladies. Je sais pas, les médecins pourraient peut-être dire que effectivement, ça pose davantage de surveiller la mise en quarantaine. Quoique, hein, l'exclusion, peut-être, ça fonctionne toujours très bien. Mettons à l'écart tous ceux qui. Je ne sais pas.
D'autres questions, remarques, réactions?
Ça te fait marcher un peu comme ça, Anne. Ça commence à kiner tout de suite.
Ça pose des questions, quand même, ce que vous dites. Parce que on vient de le vivre. Quel est le, on parle pas dans ce domaine-là du rôle des émotions collectives et de leur manipulation éventuellement dans le biopouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On vient de le vivre, hein, l'explosion des émotions collectives, mais dans quelle mesure ça n'a pas été amplifié, puis ça a été exploité. C'est toute cette intrication entre ce qui semble rationnel et ce qui ne l'est pas, finalement.
Alors, je n'ai pas d'outil. Enfin, Foucault ne permet pas de penser ça. Je pense qu'il y a des auteurs foucaldiens qui essayent de penser la politisation des émotions, comme Richard Sennett. Mais c'est un peu lointain pour moi, donc je crains de dire des bêtises. Sennett, en tout cas, c'est un auteur tout à fait foucaldien qui essaye de penser, de critiquer ce qu'il appelle les tyrannies de l'intimité, en réhabilitant... non pas l'intime, non pas l'émotionnel et tout ce que ça peut, enfin toute la façon dont l'émotion renvoie un sujet à lui-même, à son petit monde clos, mais au contraire un certain théâtre social. Donc un auteur qui est complètement à contre-courant, qui veut dire mais arrêtez de parler de votre nombril, arrêtez d'amener dans l'espace public l'émotion. Et réhabiliter vraiment l'inauthenticité, on pourrait presque dire, contre le mot d'ordre de l'authenticité, donc du fait de coller à ses émotions, simplement parce que le théâtre social, c'est ce qui permet la communication. Si je suis dans une émotion tristesse, c'est toujours très, très difficile à communiquer, parce que si je vous décris la mort de ma grand-mère, si je n'emploie pas les codes presque théâtraux qui permettent à l'émotion de se communiquer... Eh bien, vous ne partagerez pas mon émotion. Donc lui, ce qu'il veut dire, c'est, ça répond pas tout à fait à votre question, mais disons que c'est une manière de prendre Foucault, enfin du Foucault qui est revisité par Sennett pour avancer un peu dans la question de l'émotion. Vive le public, disons, contrairement à toute une société qui met l'intimité tout le temps à l'avant-scène. Eh bien, réhabilitons le rapport distant, rationnel, les rôles sociaux qu'on est obligé d'incarner et qu'il faut incarner absolument pour faire société, quoi.
Alors, s'il n'y a plus d'intervention, je remercie encore Gaël Jean-Marc pour son exposé.
Merci.
Et je vous invite lundi prochain à venir écouter un exposé sur l'histoire de la gastronomie à la Renaissance, et il y aura une petite séance de dégustation en même temps.